Jérôme Marty, vous êtes le président de l'UFML, vous êtes donc le président de l'Union française pour une médecine libre. Est-ce que vous comprenez ce cri du cœur, vous qui étiez justement en grève aujourd'hui, Fabien Villedieu de Sudrail, qui parle de reconnaissance, de meilleure rémunération pour les contrôleurs?
Oui, non, mais je reconnais tout à fait ça, et je reconnais aussi le droit de grève, et je reconnais la nécessité de pouvoir dire on se sent maltraité. Nous, ce qui nous motive et ce qui fait bouger ce mouvement qui est historique, n'ayons pas peur des mots, hein, 80% des cabinets libéraux fermés, l'ensemble des syndicats qui soutiennent ce mouvement, alors chacun avec ses raisons, mais globalement tout le monde le soutient. Ce qui nous fait bouger, c'est que nous, on est devenus maltraitants et qu'on ne peut plus supporter ça. Je veux dire, on a tellement abandonné la médecine libérale qu'on a en quelque sorte forcé les médecins à devenir maltraitants. Quand on rentre chez nous le soir, on sait qu'on a laissé X patients sur le bord de la route et qu'on n'a pas pu les prendre en charge. Quand on veut prendre un rendez-vous avec un spécialiste, ça nous prend 6 mois, parfois 1 an. On voit arriver des pathologies qu'on ne voyait plus depuis 20 ans. On n'arrive plus à suivre les gens comme il le faut. On est dans l'incapacité de salarier un assistant, une secrétaire. On ne peut pas faire de la médecine de qualité. Donc nous, ce qu'on dit aux gouvernants, quel qu'il soit, hein, miser sur la médecine, parce que c'est le placement certainement le plus rentable pour la nation. Et si vous voulez que l'hôpital aille bien, il faut forcément que la médecine libérale aille bien. Parce que 95% des patients qui arrivent à l'hôpital passent par la médecine de ville. Quasi 100% des patients qui sortent de l'hôpital reviennent à la médecine de ville. Et le pari des hommes politiques, vous le savez, c'est de passer à la médecine ambulatoire, c'est-à-dire de raccourcir les séjours hospitaliers et de faire sortir plus tôt les patients. Ben, si vous faites sortir plus tôt les patients, il faut avoir des gens pour les accueillir. Et donc, il faut avoir une médecine de ville. Et donc, il faut miser sur celle-ci.
Il y avait beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment beaucoup de jeunes au sein du cortège. C'est surprenant ou c'est surtout inquiétant?
C'est pas surprenant, parce que nous, on le savait. Mais par contre, ça met à bas toute la communication des politiques aussi, qui depuis des années nous disent « Mais les jeunes, le secteur libéral, ça les intéresse pas. » Eux, ils veulent du forfait, ils veulent être salariés, etc. Ce mouvement a été monté par des jeunes femmes médecins. Et là aussi, c'est un collectif d'ailleurs qui l'a monté. Comme nous, on était collectif il y a quelques années avant de devenir syndicat. C'est un collectif qui les a montés et les syndicats ont soutenu ensuite ce mouvement. Mais ça, le fait que ce soit des jeunes, c'est une vraie alerte pour le gouvernement. Ce mouvement, là aujourd'hui, 1 et 2 décembre, c'est un point de départ. Je vous rappelle qu'en 2002, le mouvement avait duré 1 an. Là, on part sur quelque chose très certainement de long, avec des grèves qui vont être dures. Et c'est de notre responsabilité que de faire des grèves dures. On connaît l'état de l'hôpital public.
On connaît le pourcentage de grévistes aujourd'hui?
80%, 75-80%. C'est énorme, hein? Ça ne s'est jamais vu. On a des retours terrain
commun,
de toute la France et des dom-tom, de gens qui nous disent « Moi, j'en suis à ma 30e année d'exercice, je n'ai jamais fait grève, pour la première fois, je ferai mon cabinet. » Donc on a vraiment à la fois les plus vieux comme les plus jeunes qui sont touchés, impactés et qui nous disent on n'en peut plus, on exerce dans des conditions qui sont les plus, passez-moi le terme, pourries depuis des années et on ne veut plus ça.
Mais comment vous avez concilié une grève dure avec la coïncidence de 3 crises, de la bronchiolite, de la grippe et du Covid, puisque c'est la 9e vague?
Mais très simplement, 1, on va répondre aux réquisitions, donc on fera face. Mais 2, on voit bien que le système est en train de s'effondrer, qu'il n'est d'effondrement qui ralentissent. Et que donc, on préfère prendre nos responsabilités maintenant pour éviter de vivre des crises beaucoup plus graves dans les jours, dans les années, dans les mois ou années qui viennent. Parce qu'on y va tout droit. Le système de santé, il est comme le Titanic et les hommes politiques jouent du violon sur le pont. Ça suffit, quoi.
Et François Braun, le ministre des Solidarités et de la Santé, vous a répondu, mon cher Jérôme Marty. C'était il y a quelques minutes. On l'écoute. François Braun, le ministre des Solidarités et de la Santé, il s'est exprimé cet après-midi. Il dit que les médecins généralistes en ont ras-le-bol. Ils ont des droits, mais surtout des devoirs. Écoutez.
Dès que je suis arrivé avec ces collègues généralistes, j'ai mis un petit peu ça sur la table, si je peux me permettre l'expression. Bien sûr, les médecins généralistes ont des droits, mais il y a aussi des devoirs. Les devoirs, c'est que chacun de nos concitoyens puisse avoir un médecin traitant, et en particulier les plus fragiles, et c'est d'assurer la permanence des soins. Dès lors qu'il y a des engagements en ce sens, je l'ai dit, moi, rien n'est tabou et nous pourrons discuter avec la Sécurité sociale de modification du tarif de la consultation.
Jérôme Marty, président de l'UFML, vous lui répondez quoi, François Braun?
Mais que les devoirs, on les remplit tous les jours. Je veux dire, qui a tenu la France en 2020, quand il s'est agi de se placer face au Covid, à la fois nos collègues hospitaliers et nous? On est la profession qui a payé le plus lourd tribut à la Covid. On a 74 morts d'avoir soigné. On l'a fait. Quand il s'est agi de montrer les centres de vaccination, on l'a fait. Quand il s'est agi de tenir le système à bout de bras, on nous annonçait une catastrophe cet été. On a été là, il ne s'est pas passé la catastrophe. Donc les devoirs, on les remplit tous les jours. On n'a pas de leçons à recevoir. Je veux dire, on travaille 55 heures par semaine, on prend des gardes, on nous dit que la PDSA, c'est-à-dire la permanence des soins, n'est pas assurée, elle est assurée dans 95% des territoires. On fait le job et on continuera à le faire. Mais là, on le fait dans de très mauvaises conditions. on fait prendre des risques à nos patients, il y a une perte de chance, on dit mettez tout sur la médecine pour que les jeunes s'installent. Nous, on ne veut pas gagner plus à la fin du mois, on veut travailler mieux. C'est-à-dire qu'on veut des actes, certes, plus chers, mais moins d'actes pour donner plus de temps aux patients. Le gouvernement, lui, nous dit, on va vous subventionner des assistants et vous verrez plus de monde. C'est-à-dire un peu comme on disait de Chirac, 5 minutes douche comprise. Mais ce n'est pas ça, la médecine.
Mais s'il n'y a pas de médecin.
Jean-Sébastien Ferjou.
J'entends votre raisonnement sur la qualité du travail fourni, mais si les médecins n'existent pas de toute façon, parce qu'on ne va pas d'un coup de baguette mais magique.
Jean-Sébastien Ferjou, sur une promotion de médecins généralistes, sur 100% de médecins généralistes formés, on en perd 40. On en perd 40%. Soit qu'ils abandonnent en cours d'études, soit qu'ils font autre chose, qu'ils passent dans l'administration, dans les laboratoires, etc. Il faut les ramener aux soins. Et pour les ramener aux soins, il faut rendre nos professions attractives. Ils sont sur le marché, ces gens. On peut les avoir tout de suite. Mais il faut rendre ça attractif, il faut montrer qu'on est capable de faire de la médecine de qualité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Éric Revel, journaliste, est-ce qu'on arrive à un point de bascule? Est-ce que vous avez le sentiment que cette grève des médecins, tout comme peut-être
alors,
la grève
justement,
de Fabien Vidieux,
c'est ce que je dire.
Avec les contrôleurs,
alors,
ces mouvements sont partis pour durer?
Alors, je ne sais pas s'ils sont partis pour durer. Ça sera aux organisations syndicales de faire voter leur base, comme on dit, pour savoir si la grève dure ou pas. Mais je voudrais quand même insister sur un point. C'est que là, on a deux exemples bon, très différents, médecins, contrôleurs de la SNCF, qui sont en grève, qui vont mettre en place des mouvements. Vous avez employé une formule qui, pour une fois, M. Vidieux, me va bien. Vous avez dit, c'est pas parce que si on met le couvercle sur la cocotte que les choses sont réglées. Vous avez tout à fait raison. Et ça, les deux exemples que vous donnez, à mon avis, ce soir, c'est une cocotte sociale française qui bouillonne, quels que soient les légumes, les produits qui sont en train de cuire, elle bouillonne, et si on met juste le couvercle, ça risque d'exploser. Maintenant, M. Vidieux, je vais vous dire une chose quand même, si vous me permettez. C'est que vous combattez l'injustice sociale, en général, les syndicats. Et vous appartenez quand même à une catégorie de salariés qui est extrêmement protégée. La grande majorité des Français, ceux qui travaillent dans les secteurs privés, qui ont des petits jobs, qui sont payés au SMIC, eux, ils peuvent faire grève, ils n'obtiendront jamais rien. Donc.
Mais moi, j'entends cette petite musique, finalement.
Non, c'est pas une petite musique, c'est un fait, c'est factuel.
On fait grève alors que finalement, on aurait des avantages, voire on pourrait dire qu'on est des privilégiés. Mais ce n'est pas la réalité. Moi, je vous le dis, ce n'est pas la réalité. Ça a peut-être été la réalité un jour, mais ce n'est plus la réalité de la SNCF en 2022. Parce que si c'était vraiment la réalité, eh ben, les gens ils viendraient à la SNCF. Ils diraient, je veux rentrer. Même des fils de ministres, ils viendraient à la SNCF parce qu'après tout, c'est sympa, la SNCF, voire peut-être que c'est la planque. Tout. Mais ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, la SNCF, elle n'arrive pas à recruter. D'ailleurs, il n'y a pas que la SNCF, hein, la RATP, un peu tout, beaucoup de services publics, ils n'arrivent pas à recruter. Et non seulement ils n'arrivent pas à recruter, mais ils ont des démissions. Mm-hmm. Moi, je donne juste un chiffre. On a eu en 2021 1200 démissions à la SNCF. Ce chiffre, on l'a obtenu en 2022, en septembre, trois mois avant. Et je vous le dis, l'année prochaine, on l'obtiendra au mois d'août. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de dingue où on nous explique que la SNCF, finalement, c'est bien, on revendique, mais finalement, on est quand même plutôt bien content. Et les gens se barrent de la SNCF. Mais si c'est si bien, si la soupe est si bonne, mais les gens, ils ne partiraient pas. Ouais. Donc, OK, ça a peut-être été l'arrêté de la SNCF dans les années 80. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Merci pour votre réponse. 18h passé de 29 minutes sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel des titres.
Mylène de Mongeau est décédée. L'actrice s'est éteinte en début d'après-midi dans un hôpital parisien. Actrice engagée, souvent comparée à Brigitte Bardot, elle a partagé l'affiche avec de nombreux grands noms du cinéma. On se souvient notamment de son rôle dans Fantomas 1, vous le voyez sur ces images. Olivier Véran prépare les Français à d'éventuelles coupures. Ils seront informés la veille d'un risque de tension d'électricité, selon le porte-parole du gouvernement. Il ne précise toutefois pas la façon dont les Français seront prévenus des coupures a priori ciblés qui ne toucheront pas un département entier. Et puis la billetterie des JO 2024 est ouverte depuis ce matin. Une première phase d'inscription qui aura lieu jusqu'au 31 janvier. Une fois terminée, un tirage au sort se déroulera le 15 février. Les heureux élus auront ensuite 48 heures pour acheter jusqu'à 30 places au maximum.
Adrien Spiteri pour le rappel des titres dans un instant. Vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. On ira aux États-Unis, plus précisément à Washington, avec cette conférence de presse très attendue, conférence de presse commune entre ces deux hommes, Emmanuel Macron et Joe Biden. Vous restez avec nous dans Punchline. A tout de suite.
Europe 1,
18h-19h,
Punchline.
Patrice Boisfer.